Alors, par
Shalom.
contre, le cours et la journée sont pour la réfoua chez le match du Rav David Twitou, Ben Esterbert.
Quoi?
Le Rav Twitou de Ashdod qui apparemment est dans un état pas facile, facile. Donc, on va
Oh
attacher chez le réfoua chez les mains.
my
Ouais.
God, c'est vrai encore?
C'est ma tort que le cholam Israël.
Amen, amen, amen.
Alors, je rappelle qu'on demande aux personnes d'éteindre leur microphone et de les allumer qu'en cas de questions. Todarabin, Todarabin, Partouche. Shalom, shalom. Comment?
Oh non.
Shalom à tous, nous continuons. Aujourd'hui, nous allons finir le Notri, la chrétienté. Nous allons commencer l'islam et finir l'islam, de manière à ce que la semaine prochaine, nous puissions commencer enfin ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le Yehudi, le Rav qui va parler. Attendez, j'arrange, voilà. Le Rav qui va parler au nom de la Torah. Alors, regardez, je vais vous montrer un texte important. Pour pouvoir comprendre. D'abord, reprenons le texte du Kuzari. Alors, attendez, ici vous avez le texte. Ok. Donc, on avait parlé de Ve'imlo niyem ibne Israël, si nous appartenons pas aux enfants d'Israël, ça c'est les chrétiens qui la chrétienté dit, si nous appartenons pas au niveau de l'ADN, nous ne sommes pas les descendants directs des enfants d'Israël, c'est-à-dire, car les enfants d'Israël, leur descendance, c'est bien entendu les Juifs, Anachnu yoter reuim shenikra bnei Israël, nous sommes plus appelés à être appelés les enfants, les vrais enfants d'Israël. C'est-à-dire que dans la tête, dans la conception de la chrétienté, ils sont le vrai Israël au niveau de la pensée, au niveau spirituel. C'est-à-dire ils ont hérité de l'héritage spirituel d'Israël. Or, l'héritage des enfants d'Israël au niveau de la matérialité, alors ça va être les Juifs. Les Juifs, en effet, ils sont la continuité historique au niveau du corps, au niveau de la descendance, des enfants d'Israël. Mais nous sommes appelés le vrai Israël parce que nous avons hérité l'héritage spirituel et pas l'héritage du corps, l'héritage de l'ADN. Mipne, maintenant c'est quoi la cause? Shanachnu olchim acharei divrei HaMashiach, parce que nous suivons les paroles du Mashiach qui sont bien sûr l'acrobate. Je vous rappelle que l'essentiel en fait de ce qui reste de tout ce qui se passe au niveau de la chrétienté, c'est que Jésus, l'acrobate, est représenté comme le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire le Messie? C'est pour ça que ça a été très. Certaines personnes étaient étonnées que Jésus ait appelé Dieu lui-même, qui est devenu un homme, qui est devenu une créature. Parce qu'on a l'impression qu'on parle du Jésus en tant que Messie, c'est communément répandu, tout le monde sait ça, qu'il est le Messie, il croit au Messie. Maintenant, pourquoi c'est ce qu'on croit? Parce que c'est ce qu'il reste en fait. Étant donné que Dieu a été assassiné, il y a eu le déicide, l'assassinat de Dieu par les enfants d'Israël, par les Juifs de la même époque. Il ne reste plus que l'espoir de sa résurrection. Et ceux qui croient à ce Messie, en étant Jésus, étant le Mashiach, alors ils vont pouvoir accéder à la rédemption, accéder au paradis. Et il ne reste plus qu'à croire en lui et attendre sa venue. C'est-à-dire? Donc c'est pour ça qu'à la fin, il parle, il fait Mashiach, parce que nous suivons, nous les chrétiens, nous suivons les paroles du Mashiach, Jésus en tant que Mashiach. C'est pour ça qu'on appelle ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Christ, Akavana Christos en araméen, en grec, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a été oint, c'est-à-dire c'est la traduction du mot hébreu, Mashiach. Mashiach, c'est celui qui est oint, l'onction divine. Le Shemen HaMishra, c'était l'huile d'onction divine qu'on versait sur les rois d'Israël, sur les prêtres d'Israël, sur les kélim, sur les ustensiles du Beth Amikdash pour rentrer en fonction publique, en fonction de sainteté. Et donc, on va parler du Christ, à Kavanah, on va mettre en avant le fait qu'il est le Messie et qu'il va libérer ce monde, mais il doit avoir la résurrection, le retour de Dieu sur terre. Mais tant qu'il ne revient pas, alors Dieu n'est pas sur terre. Il y a l'assassinat de Dieu, on attend son retour. C'est-à-dire? Donc, c'est pour ça qu'on a expliqué que la chrétienté, elle fête le dimanche comme étant le jour du Shabbat, en étant le huitième jour. C'est-à-dire, il n'y a plus d'histoire, on a passé les 7 jours de la création. Et on attend en fait la réalisation du huitième jour. Cette réalisation du huitième jour, elle existe chez nous. Elle existe dans la Torah, bien entendu. Vous savez qu'à chaque fin de, premier, de jour de création, on a un passou qui dit, un verset qui dit, Vaye erev, vaye voker, ce fut la nuit, ce fut le jour, yom echad, le jour 1. Vaye erev, vaye voker, yom sheni, ce fut le jour, ce fut la nuit, yom numéro 2. Nous avons Vaye erev, vaye voker, yom hashishi. Est-ce que ce passouk existe, oui ou non? Est-ce que vous connaissez ce passouk? Vaye erev, vaye voker, yom hashishi.
Bevadai, nachnu omrim etze.
Et nachnu omrim, c'est-à-dire que quand on dit le kiddush, le vendredi soir, on commence par Yom HaShishi Vaicholu HaShamayim Vaharet. En fait, Yom HaShishi qu'on commence dans le Kiddush du vendredi soir, c'est la fin du passouk qui dit Vaierev Vaivoker Yom HaShishi. Mais en fait, c'est seulement la fin d'un passouk.
Vous avez disparu la partouche, vous n'êtes plus là.
Je réapparais. Regardez, c'est extraordinaire. en fait, c'est seulement la fin du passouk de Vaierev Vaivoker. Ce fut le jour, la nuit, ce fut le jour Yom HaShishi, le sixième jour. Maintenant, je vous pose la question, et ça, c'est une question piège. Y a-t-il le pasouk Vayerev Vayivoker, Yom HaShevi'i ou Yom HaShabbat, ce fut la nuit, ce fut le jour du Shabbat? Oui ou non?
Non.
Non? Il n'y a pas ce pasouk? Non, il n'y a pas ce pasouk. En effet, il n'y a pas ce pasouk dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne parle pas de la fin du septième jour. C'est-à-dire, la Torah ne parle pas de la fin du septième jour. Il y a un premier jour, il y a un deuxième jour, il y a un troisième jour. Il y a un jour 1, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit, ce n'est pas un premier jour, ce n'est pas Yom Rishon, c'est Yom Echan. Il y a un jour 1, il y a le deuxième jour, troisième, quatrième jour, le sixième jour, Yom HaShishi. Mais il n'y a pas la fin du Yom HaShevi'i. Or, on pourrait se tromper et penser que oui, le Yom HaShevi'i, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le premier Shabbat avec Adam Rishon, Chava au Gan Eden, c'est-à-dire, et ensuite ils étaient déjà expulsés du Gan Eden, mais avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ils ont passé le premier Shabbat. Je vous rappelle que l'homme a été créé le vendredi, et il rentre dans le Shabbat. D'accord, il va fauter, il rentre dans le Shabbat, et on peut penser que ce Shabbat est fini. Or, ce n'est pas marqué dans la Torah. Et de là, le Rav Ashkenazi enseignait un grand enseignement, c'est que nous sommes toute l'histoire de l'homme, c'est le Yom HaShevi'i, c'est le septième jour. Et c'est pour ça que le Maharal de Prague, il y a 400 ans, dira que le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature, parce que nous sommes dans le monde de la nature, nous sommes dans le septième jour. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, et ça c'est très important pour comprendre et la chrétienté et l'islam, c'est que nous sommes dans le monde où Akadosh Baruch Hu s'est retiré de ce monde. Il est dans son Shabbat, il a cessé, rappelez-vous cette Torah. C'est une Torah très importante pour comprendre notre propre Torah et comprendre mieux les autres nations. Hachem est rentré dans son Shabbat. Il a agi pendant 6 jours de la création. Et ensuite, ou Shovet, c'est-à-dire il a cessé de créer, il a cessé d'intervenir dans ce monde. C'est-à-dire, et les chrétiens ont dit, on a fini l'histoire de l'homme qui est représenté par le septième jour. Et on attend le huitième jour. Maintenant, est-ce que nous, dans la Torah, on attend le huitième jour? Mais bien sûr. Quand est-ce que le huitième jour viendra? Au plus tard, en l'an 6000. Nous sommes en l'an 5781 et nous savons que l'histoire de l'homme, c'est jusqu'à l'an 6000. Et là, on rentrera dans un niveau beaucoup plus grand. On rentrera dans le septième millénaire. C'est une autre histoire de l'homme. Viendra un ère qui dépassera l'histoire comme on connaît aujourd'hui, et on commencera par un pasouk Vayhi Bayom HaShemini. C'est le début de la paracha de Shemini. C'est quoi Vayhi Bayom HaShemini? En fait, c'est l'inauguration du Mishkan, du tabernacle qui était dans le Beth Amikdash. Ça, c'est un niveau au-dessus de la nature. Le huitième qu'on va étudier à Hanouka, c'est au-dessus de la nature. Mais pour l'instant, on appartient au monde de la nature. Le divin nous laisse agir dans la nature. Il n'a pas abandonné son monde. Il est dans ce monde. Il est en contact avec ce monde, mais il n'intervient pas dans ce monde. C'est-à-dire, donc les chrétiens, ils disent, Hachem a désespéré de ce monde parce qu'il a été assassiné par ses propres créatures, et on attend son retour pour réaliser la rédemption ultime, c'est le fameux huitième jour. Maintenant, regardez.
Raph, j'ai une question. Comment comprendre alors la sortie d'Égypte? Il a bien intervenu.
Alors ça, c'est une excellente question.
Et à Pourim?
À Pourim, il n'a
bon,
pas...
Bon, on ne le voit pas. Ah, bon, ah, oui, ah, c'est ah, vrai, oui. Oui. Et à l'Égypte, oui.
L'Égypte, il a intervenu. Quoi d'autre? Quand est-ce qu'il a intervenu aussi?
Mais tout le long, toute la création.
Tout le long, la conquête de l'Eretz, le temps.
À quel moment il a intervenu? La sortie d'Égypte, je suis d'accord. Quoi d'autre? Esther.
Matan Torah.
Exactement. Matan Torah. Le don.
Zayom Hashishi.
Exactement. Il a intervenu. Quoi d'autre? Allez, l'Égypte, il a intervenu. Le don de la Torah. Quoi d'autre?
Mer Rouge.
La mer Rouge. Exactement. La mer Rouge. C'est-à-dire que là, on voit le divin, il s'est dévoilé. Il est sorti du domaine du caché et il s'est dévoilé. C'est-à-dire, donc, faites très attention. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu a continué à donner vie au monde, à pousser l'histoire du peuple d'Israël. Il n'est pas disparu dans le sens. Et là, comme on dit en hébreu, Olam, le mot Olam, le mot qui veut dire monde, vient du mot Aïn Lamed Mem. Aïn Lamed Mem, qui veut dire disparaître. Ne Elam, Nun Aïn Lamed Mem. Ne Elam, ça veut dire disparaître. C'est-à-dire, Le'alim, ça veut dire cacher quelque chose. Ne Elam, c'est quelque chose qui a disparu parce qu'il est caché. Le Olam, par définition, c'est ce qui cache le divin. Tu te balades dans le monde. Est-ce que le monde dévoile le divin ou cache le divin? La première étape, c'est le dévoilement du divin. Nahon, celle qui a écrit Chava Chazakobo, c'est la réponse. Mais pour l'instant, comprenez que ce monde, il cache Dieu. Et ça peut entraîner une mauvaise compréhension. Et c'est ça les problèmes des religions. Les problèmes des religions qui vont essayer d'expliquer que Dieu n'intervient pas. Alors, ils vont être face à une explication qui va être une explication humaine ou même théologique pour expliquer que Dieu, on ne le voit plus. Donc, les chrétiens, ils ont décidé. Dieu a été tué.
Kennedy. Il y a toute la période de la Névoie quand même, où Dieu, il n'intervient pas en ouvrant la mer, mais à travers ce qui s'est passé, il nous guide quand même.
Ok, d'accord. Mais là, on voit dans la sortie d'Égypte, dans le Maboul, le déluge, dans les Migdal Bavel, dans la tour de Bavel, on va avoir la névoie, on va avoir le dévoilement du Beth Amikdash, mais ça, c'est des choses normales.
Dieu a intervenu qu'une seule fois, c'est la mort des premiers-nés, ou sinon c'était tout le temps des anges à lui ou des choses comme ça.
Non. C'est-à-dire que même la sortie d'Égypte, c'est lui. Tout est lui. Là, on a dévoilé Etzba Elohimi. Pharaon, il va voir le doigt de Dieu, les sorciers de Pharaon, on va dire ça c'est Hachem. Alors attendez, je donne la réponse. La réponse, elle a été donnée, elle a été écrite ici dans le chat. En effet, écoutez, ça c'est un chidouche très 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 important, qui est une des bases. Le chidouche, il est le suivant. En effet, Akadosh Baruch Hu a créé la nature. Et maintenant, c'est dans le monde des hommes. Je réponds à David par rapport à la prophétie. La prophétie, c'est l'homme qui est devenu capable de recevoir la prophétie. C'est-à-dire, si, tandis que lors de la mer Rouge ou lors de Matan Torah, c'est une action divine qui vient et qui se dévoile pleinement à l'homme, même si, entre guillemets, il ne méritait pas.
C'est-à-dire, même... communauté, Rav, c'est ma chose, c'est un Evdel entre notre route et nous, qu'on est tous Neshamot qui étant là.
Le dévoilement du divin, lorsqu'il va parler, lorsqu'il va dévoiler, il va donner ses commandements au Har Sinaï, oui, c'est une intervention divine. Maintenant, regardez bien. On a dit le monde, il cache le divin. Le monde ne dévoile pas le divin. Les plus grands miracles, dira le Maharal de Prague, et en se basant sur Purim, comme vous avez dit. Vous avez parlé de Purim. Il va se poser la question, le Maharal de Prague, il y a 400 ans, il va dire, à chaque fois que je dis le Maharal il y a 400 ans, parce que moi je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que le Maharal de Prague, à 400 ans, il va donner des textes que aujourd'hui tu as soif de les lire. Il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qui est plus grand, Hanouka ou Purim? Il se pose la question. Qu'est-ce qui est plus grand? Il y a deux fêtes qui sont instituées par nos rabbinim, Hanouka ou Purim? Réponse du Maharal de Prague, Purim. Parce que Purim, tout est resté dans le domaine de la nature. Le divin est intervenu. Il est clair que le divin est intervenu, mais dans la nature. Ça, c'est beaucoup plus grand que Hanouka, où le divin n'est pas intervenu dans le domaine de la nature. Dans quel moment? Les guerres? Non, ça c'est intervenir dans le domaine de la nature, parce que si tu te demandes à l'époque, les Grecs, qui c'est qui a gagné les guerres? C'est pas Dieu, c'est les Maccabim. Mm-hmm. Non. À quel moment Dieu a dépassé les lois de la nature? C'est dans la fiole d'huile.
Et la fiole d'huile.
Ça, c'est au-delà de la teva. C'est Nes, chez Michutz la teva, chez Mi'ever la teva. C'est un miracle qui est au-delà des cadres de la nature. Alors, c'est un miracle, mais au-delà des cadres de la nature. Ça marche. Pourim, c'est que la nature. La création de l'État d'Israël, c'est que la nature. De ne pas voir la main d'Hachem. Alors, c'est un problème, parce que Hachem a intervenu comme un Pourim. Ou comme à Hanouka dans les guerres des Maccabim. Hachem intervient. La question, c'est de savoir est-ce que c'est à l'encontre de la nature qui dérange les lois de la nature ou c'est dans les lois de la nature, mais c'est quelque chose qui, waouh, surnaturel. Comme dira un grand chef d'armée en Israël, il dira, il est clair qu'en Israël, on ne croit pas, dans l'État d'Israël, on ne croit pas aux miracles. Mais si on ne tient pas compte des miracles, alors jamais on n'aurait pu gagner des guerres. C'est-à-dire C'est-à-dire, d'un côté, oui, c'est pas miraculeux, c'est pas une ouverture de la mer, c'est pas Hachem qui nous parle. Mais de l'autre côté, c'est sûr que c'est surnaturel. Mais c'est, écoutez cette expression, c'est Nes Shebateva. C'est un miracle qui est dans et qui s'inscrit dans la nature. Et il est beaucoup plus grand dans le projet divin qu'il y ait un miracle dans la nature qu'un miracle qui va à l'encontre de la nature.
Alors, vous voulez dire, Rav, que la Milchemet HaShikrur était beaucoup plus grande que Milchemet Sheshet HaYamim?
Les deux, il y a eu des miracles.
D'accord.
Et les deux sont grands. Pourquoi? Parce que justement, c'était dans la nature. Il n'y a pas eu une mer qui s'est ouverte. Il n'y a pas eu des extraterrestres qui sont venus et qui nous ont libérés de nos ennemis. C'est nos soldats. C'est-à-dire, la Maseret Brachot, elle se pose la question. Elle dit, mais comment ça se fait qu'à des générations, il y a des miracles, et des générations, il n'y a pas de miracles? Réponse de Maseret Brachot, du traité Brachot, il dit, là où tu donnes ton âme, ta vie pour Israël, il y a des miracles. Donc, on a la réponse. Il y a 2000 ans. Maintenant, regardez. À quel moment, maintenant, on y va. Si on dit que le monde, il cache, ne dévoile pas le divin, à quel moment le divin va intervenir dans ce monde. Alors, regardez, moi, je trouve ça magnifique comme enseignement. Donc, c'est du Rav Ashkenazi. Il dit la chose suivante. Il dit, comment ça se fait que nous devons faire le Shabbat? Comment ça se fait que nous devons allumer les bougies le Shabbat? Comment ça se fait que nous devons mettre les téfilines? Alors, il est clair que nous sommes imitéodei, l'imitation du divin. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu met les téfilines, nous, on doit mettre les téfilines. Les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, elles sont totalement différentes des tefilines de nous. Mais nous, on imite lui, mais à notre niveau. En effet, dans notre tefiline, il y a marqué « Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Écoute Israël, éternel ton Dieu, éternel étant. La Gemara dans Maseret Berachot, Dav Zayin, elle demande « Et dans les tefilines de Kudsha Baruch Hu, dans les tefilines d'Hashem, qu'est-il donc marqué ?»« Mi ke'amcha Israël goy echad » par Haaretz. « Qui est comme toi Israël, nation unique dans sa terre ?» Et Dieu dit, de la même façon que vous, ici-bas, vous, le peuple d'Israël, vous parlez de l'unicité ou l'unité d'un Dieu, d'Hachem, moi, dans le ciel, je parle de l'unité ou l'unicité d'Israël. Donc, il y a les tefilines d'Hachem et les tefilines du peuple d'Israël. Et ze keneged ze. Et ça, c'est en face de ça. Ou plutôt, nous sommes la continuité des tefilines d'Hachem. Chazak. Hachem, chaque vendredi après-midi, avant le Shabbat, il éclaire ce monde. Alors nous, chaque foyer, chaque mishpacha, elle doit éclairer ce monde avec les nérodes de Shabbat, etc., etc. Maintenant, de la même façon, Hachem fait Shabbat, alors nous aussi, on doit faire Shabbat. Mais il y a une grande différence. C'est que Kadosh Baruch Hu, il fait Shabbat tout le temps. Depuis la création du monde, Kadosh Baruch Hu est rentré dans son Shabbat. Et il n'est pas sorti de son Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans son Shabbat? C'est qu'il a cessé de créer, de créer ce monde. S'il est rentré dans son Shabbat, alors il y a les lois, dans les lois de Dieu pour le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Interdiction de travailler, interdiction de faire des guerres, interdiction d'intervenir, sauf comme pour nous. Quand est-ce qu'on a le droit d'enfreindre le Shabbat? Quand il y a un danger de vie, quand il y a du piquoir nefesh. quand il y a un danger de vie pour une personne, alors le Shabbat, il prend une autre forme. On a le droit d'agir, on a le droit de prendre la voiture, on a le droit d'emmener à l'hôpital, on a le droit de faire sortir des soldats, de se battre, d'envoyer des avions, d'envoyer des tanks. On a le droit de prendre un téléphone, etc., pour sauver des vies. Ben, il en est de même pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va agir dans son monde lorsque le monde est en danger de vie. Et donc, bien gros, il est clair que quand on était à l'époque du déluge, le monde était en danger.
Partout, là, on rentre dans une situation très difficile. En tant que seconde génération et en tant que quelqu'un qui est entouré des survivants, ça, cette question-là, elle est vis-à-vis. Il a passé toute la vie à demander cette question.
Non, alors on expliquera ça. On expliquera qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est?
Quoi ça me fait?
J'ai dit Dieu à Israël. Bien sûr qu'il faut répondre. Bien sûr qu'il faut répondre à cette question. Et Bezrat Hashem, quand on traitera le sujet, on parlera de tout ça. Mais le principe, il est comme ça. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a des périodes où justement il va intervenir. Donc la sortie d'Égypte, c'était l'intervention du divin. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas eu des morts? Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas eu des souffrances? Est-ce qu'en Égypte, tout le monde a été sauvé? Non. Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, un bidjou, Nachron, et on était pendant 200 ans là-bas? Parce qu'avant d'intervenir, Akadosh Baruch Hu a laissé l'homme. Akadosh Baruch Hu a laissé l'homme la possibilité de faire le bien et le mal. Et Pharaon, il a décidé de faire le mal. Maintenant, il va avoir une intervention divine. Il faut savoir à quel moment. C'est quand les hommes se sont réveillés. Très dur, ça. Quand les hommes se sont réveillés, le premier qui va se réveiller, il s'appelle Moshe. Lorsqu'on se pose une question, qui est le premier qui a donné les plaies en Égypte? La réponse, elle est simple. Ce n'est pas Hachem. Non? Non? Ce n'est pas Makat Dam. Ce n'est pas à la plaie du sang. Ou ce n'est pas la plaie. Il y en a qui comptent la plaie à partir du moment où le bâton de Aaron va se transformer en serpent, en tanit. Non. La réponse, c'est la première plaie qui a été donnée en Égypte, c'est par Moshe lui-même, lorsqu'il va frapper l'Égyptien. Ve-make, il va frapper, il va tuer l'Égyptien qui fait souffrir. Alors là, quand il y a un homme qui prend conscience que son peuple est en train de souffrir et qu'il faut tout faire pour l'aider, pour faire sortir, pour arrêter sa souffrance, alors il a éveillé l'éveil d'en haut, l'éveil divin. Et ça a permis à cette délivrance énorme qui s'appelle la sortie d'Égypte. Que même là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'agit pas tout seul. S'il n'y avait pas Noah, alors, on n'aurait pas pu avoir le déluge. On n'aurait pas pu être sauvé du déluge. J'ai sauvé le minimum du monde.
Est-ce que c'est quand on appuie sur l'interrupteur qu'il intervient, en fait?
Alors, il attend cet homme qui est capable de dévoiler le divin sur cette terre, en effet. Oui. Mais il va agir. Alors, après, tout doit passer par la nature parce que Hachem nous a donné les clés du jardin. Le jardin, c'est le jardin d'Éden, mais on l'a perdu. Il nous a donné la responsabilité, les Ovda ou les Shomra, de travailler le jardin d'Éden et de cultiver, de protéger le jardin d'Éden. Ça, on est un associé avec HaKadosh Baruch Hu. Ça serait infantile de penser que HaKadosh Baruch Hu, il peut tout faire et il nous domine et on n'a rien le droit de faire. Ça, c'est ce qu'on va voir chez les musulmans, c'est comme ça. Et dans la Mishraël, on a une responsabilité énorme par rapport au monde. Une fois, il y avait un élève qui avait donné un cours sur, il avait un diplôme d'histoire. Il a donné aux jeunes élèves qui étaient beaucoup plus jeunes que lui, des jeunes bacheliers, il leur a donné un cours sur la Shoah. Et il commence à expliquer, on parle de Yimar Shemov, Shem Zichro Hitler, comme étant d'un démon. Il y a un rave qui dit que c'était un Shindalet. Et il ramène plein de choses bizarres, etc., etc., etc. Et à la fin, il dit tout ça est faux. Hitler était un homme. Et l'homme est capable de devenir la pire des choses qui puissent exister. Pourquoi? Parce qu'il lui a été donné le libre arbitre. Et tout le monde était un peu choqué. Il fait, mais non, mais c'est pas normal. L'homme est capable de devenir la pire des choses. Mais quand on sait ça, on peut comprendre que, à l'inverse, l'homme peut devenir la plus belle chose. est la plus grande chose. Et la chose qui va construire le monde et qui va emmener le tov, le bien dans ce monde. Ça, c'est le destin d'Israël. Les religions du monde sont désespérées du monde. Vous voyez bien ici la chrétienté, elle désespère totalement du monde. Jésus a été tué, qui est Dieu lui-même. Dieu a été tué, donc il n'y a plus d'espoir. On attend qu'un jour, on arrive à sortir de ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Qu'on n'a rien à faire dans ce monde. Que ce monde est désespéré. On est désespéré de pouvoir réparer l'humanité.
Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît ?
Oui.
Oui, c'est comme quelque chose qui m'interpelle beaucoup. C'est la parole de Jésus. Est-ce que vraiment, je ne pense pas que Jésus ait pensé qu'il était Dieu ? C'est ce qui a été dit de lui.
C'est bien. Maintenant, regardez, c'est très simple. C'est ce qui a été dit de lui. Jésus, c'était un rachat. Les rabbanim qui étaient à l'époque et le peuple d'Israël qui était à l'époque témoignent de ça, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Deux, quand on va parler de ce qui a été dit et de ce qui a été vu, ça n'enlève aucune responsabilité de cet homme-là, c'est-à-dire, et qui a été coupable aux yeux des Chachamim, et qui était à tel point dangereux pour le Am Israël, qu'ils ont décidé de le tuer. Mais ce que je veux exprimer, ce que je pense quand on parle de la chrétienté, c'est qu'il faut voir qu'ils ont ce qui était à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire, ils ont plaqué sur un homme, sur une époque, sur des événements. Et qu'est-ce qu'ils expriment ? Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer ? Ils veulent exprimer le dégoût de ce monde. Ils veulent exprimer le dégoût de ce monde. Et c'est ce qui leur donne la possibilité de faire les choses les plus horribles. Pourquoi ? Parce que le monde est horrible. Que tu sois bon ou gentil, de toute façon, t'es taché parce qu'il y a le péché originel qui tache l'humanité. Et on ne peut pas être bon, on ne peut pas être sadique, on ne peut pas, on doit attendre seulement que lui vienne nous libérer de tout ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi les Nochachamim nous disent que la chrétienté, c'est Esav ? Alors que Esav, ça n'a rien à voir au niveau généalogique, on ne va pas voir la chrétienté. Et là, Esav, c'est ce qu'il exprimait. Ayef Anochi, il ne pense pas que l'âme est capable de réussir dans ce monde-là. Et plus on s'éloigne de ce monde-là, plus on pourra protéger l'âme. C'est-à-dire ? Donc, il y a des personnes qui sont obligées d'être dans ce monde-là. Il y a des personnes qui se séparent de ce monde pour s'élever spirituellement. C'est-à-dire ? Mais de ce monde, on ne peut rien attendre au niveau spirituel. On ne peut pas réparer ce monde. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la chrétienté s'est opposée aux sciences, s'est opposée au progrès, s'est opposée à la médecine, s'est opposée à tout ce qui était. On veut essayer de faire avancer le monde. C'est l'obscurantisme par définition. Alors que la Torah, elle est tournée vers le progrès, elle est tournée vers la science, elle est tournée vers faire avancer le projet divin, faire avancer l'humanité, apporter du bien au monde. C'est ça. Maintenant, regardez je voulais finir sans rentrer trop dans le texte. Je vous conseille encore une fois de lire le grand passage de Avraham Livni, le retour d'Israël, l'espérance du monde sur la chrétienté. Il y a 30 pages sur la chrétienté. Vous aurez une très très bonne perception de ça, puisque lui, en plus, il était à l'intérieur de ça. Et il était dans les grands rangs des écoles de théologie chrétienne. Et il va parler, et ça, j'y arrive, et ça, c'est important pour la suite, puisque le Kuzari parle énormément de ça. Il va parler de l'étouffement de la prophétie. Et là, on y va. Si Jésus est Dieu, d'après eux, c'est-à-dire, et que, comme le dira dans Jean, il est marqué, et la parole fut chair, c'est-à-dire, à part. Au début, on avait une parole divine, et cette parole divine est devenue un homme, est devenue Jésus. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils vont exprimer que le divin est devenu Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de prophétie. C'est-à-dire, c'est la fin de la prophétie. Faites très attention, parce que l'islam va parler de la même chose. Il va dire que Mohammed, c'est le dernier prophète. Quand tu dis « dernier prophète », ça ne veut pas dire on attend, etc. Non, il n'y a plus de prophète après Mohammed, comme il n'y a plus de prophète après Jésus. Il n'y a plus de divin qui parle. Le divin, d'après les chrétiens, est mort. Dieu est mort. Dans la Torah, on dit que c'est la fin de la prophétie. Alors faites très attention. Dans la Torah, on dit que Nitela Anevoa a été prise la prophétie. C'est-à-dire, en effet, on peut donner une date. Oui.
On dit que Haggai, Melachi, Haggai, Zecharia et Malachi étaient les derniers prophètes, non?
Non, mais on ne parle pas des... Même si on dit dernier prophète, même si on dit dernier prophète, on n'a pas dans l'intérêt, c'est fini. Dieu ne parle plus aux hommes. C'est pour ça que quand on voit le langage de nos sages, c'est nous quand on parle de l'histoire d'Israël, mais moi je vais te dire, voilà, à partir de la fin de la prophétie, c'est Anshe Knesset Agdola, en 3708, Alexandre le Grand arrive à Jérusalem, on a donné une date de la fin de la prophétie. Mais quand je dis la fin de la prophétie, ce n'est pas qu'il n'y a plus de prophétie, c'est qu'il n'y a plus de prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus de prophètes? Hachem continue d'être en contact avec ce monde, mais on n'a pas des sages ou des prophètes qui sont capables d'écouter, d'être à l'écoute de la parole divine. Mais ça reviendra. Tandis que, quand vous faites la différence, c'est-à-dire que nous, toute l'étude de la Yeshiva, toute l'étude de la Torah, c'est pour justement retrouver, d'être à l'écoute, Shema Israël, d'être à l'écoute de nouveau de la parole divine. Et on retrouve ça chez nos rabbinim. Le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté, le Chalom, le rêve, comme on voit dans Kuzari. On veut justement retrouver l'esprit prophétique. C'est tout notre but. Notre but, en passant. Pourquoi nous sommes retournés en Eretz Israël? Parce que notre but, c'est retrouver la prophétie qui ne peut se passer seulement quand on est en Eretz Israël. J'ai cru voir dans le chat une personne qui parlait de Yona. Yona n'est prophète que parce qu'il est en Eretz Israël. Et ça, il a très bien compris. Que quand il commence à prendre le bateau pour quitter le littoral d'Eretz Israël, il se coupe de la prophétie. Hachem ne peut pas, ne lui parle pas. Parce qu'il n'est plus capteur de la parole divine. Or, on est en Eretz Israël pour retrouver la parole divine. Or, d'après la chrétienté, il n'y aura pas ça. Il y aura seulement la résurrection de lui qui emmènera à la libération du monde. C'est-à-dire ? Mais on n'est plus en rapport avec le divin. Le divin n'est plus de ce monde. D'après Mohammed, qui est considéré comme le dernier prophète, toute personne qui se dit prophète après, c'est faux. Il ne peut pas avoir d'une continuité après Mohammed. Or, regardez chez nous, dans l'islam, depuis la mort de Mohammed, il n'y a pas eu de progression au niveau de la Torah de l'islam, au niveau de la loi de l'islam. C'est seulement des explications par rapport à Mohammed, mais il n'y a pas eu de progression. Pourquoi? Parce que c'était lui le dernier. Or, nous, qu'est-ce qu'on voit? On dit que chaque Talmid Chacham, chaque érudit de la Torah, on parle de grands érudits de la Torah, ils sont des nitzots de Moshe Rabbeinu. Ils sont des étincelles de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on va suivre le Rabbi Yosef Karo? Parce que nous considérons qu'il est la continuité de Moshe Rabbeinu, l'auteur du Shulchan Aruch. Pourquoi on va suivre le Rabbi Yosef? Parce qu'on va dire qu'il est la continuité de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Yosef Karo et tous nos sages qui sont la continuité de cette écoute de la parole divine qui se dévoile aussi dans nos sages. Donc ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que chez le philosophe, Hachem ne parle pas, Hachem ne s'occupe pas de nous, ne s'intéresse pas à nous. Donc le roi des Khazars, qui a vécu une parole prophétique, qui a vécu un rêve, alors il dit la philosophie, non, bon, c'est pas, moi j'ai vécu différemment. Il va se tourner vers la chrétienté, parce qu'eux parlent de Dieu, ils parlent d'une relation avec l'homme, c'est déjà plus vivant. Mais il y a un problème, c'est qu'eux disent que Dieu est mort, qu'il ne parle plus, qu'il n'y a plus. Il n'y a plus Dieu depuis l'assassinat des Juifs qui ont assassiné le Dieu. Il va se tourner vers l'islam et l'islam, elle dira la même chose. On est le dernier prophète. Et il y a une expression extraordinaire de Avraham Livni, il appelle ça l'étouffement de la prophétie. Étouffer Israël. C'est pas inventer une autre religion, et bon, Batlara, que vous réussissiez dans ça. C'est la chrétienté qui se dit continuité d'Israël, le vrai Israël, et même l'islam qui se dit la continuité de la Torah et la vraie Torah, en disant ça, ils étouffent la possibilité à l'humanité de se rattacher à la parole du divin, à l'écoute de la parole divine. Et c'est ça la gravité. Et c'est pour ça que le roi des Khazars, qui a eu ce rêve-là, et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Lévi a inventé cette histoire. C'est-à-dire quoi, il a inventé? Il a dit, il a eu un rêve. C'est par ce rêve, parce que Rabbi Yehuda Lévi dit l'humanité aspire à réentendre le divin, et la philosophie, la chrétienté et l'islam étouffent cette parole-là, alors qu'elle existe. mais elle étouffe. Elle étouffe cette écoute. Maintenant, faites le compte. Philosophe, ça représente la laïcité. Les chrétiens, ça représente 2,4 milliards personnes. De la population mondiale, 2 milliards et 400 millions de personnes. L'islam, ça représente 1,8 milliard de personnes. Avec l'islam et la chrétienté, on arrive près à 65% de l'humanité. L'islam et la chrétienté, ça représente 65% environ, 60% de la chrétienté, de la population mondiale. Rajoute la laïcité, les gens laïcs, etc., etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que la grande majorité du monde a l'impossibilité de retrouver cette parole, de retrouver cette écoute. Parce que soit la théorie des philosophes, soit la théorie des chrétiens, soit la théorie de l'islam, c'est qu'on ne peut pas, il y a pas, ne cherche pas à ça. Ne cherche pas à ça. Et il écrit dans son livre, Abraham Leibniz, quelque chose d'extraordinaire. Lui, il a étudié les textes. Et il disait, j'étais à des cours de théologie. On s'éloignait du texte. On lisait même pas le texte en hébreu. Mais s'éloigner du texte hébreu, au moins dans Shakespeare, tu vas lire Shakespeare en anglais. T'essayes d'entendre Shakespeare qui dit ça, qui dit cette phrase-là. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Bon, ça te rapproche de ce que Shakespeare disait. Mais quand on parle, nous, d'étudier la Torah, c'est clair qu'il faut dire les mots en hébrite. Pourquoi ? Pour pouvoir recevoir l'Esprit divin. Et je vous donne un exemple très simple. Je vous parle, Nahon. Je suis en train de vous parler. D'abord, comment vous savez ? Peut-être c'est enregistré, peut-être c'est faux, etc. C'est David, il a
galère, ne dites pas tout.
En fait, je suis à Dubaï, Hazé Shalom. Et là, Maïnyan, je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai une pensée dans la tête, Nahon. J'ai une pensée dans la tête. Mais dans cette pensée-là, c'est une pensée totalement abstraite. Mais dans cette pensée, je ne peux la penser qu'avec des lettres. C'est-à-dire que si je n'avais pas de langue, alors jamais j'aurais pu avoir des pensées. Vous êtes d'accord avec moi ? Je pense, mes pensées qui sont dans la tête, quand je réfléchis, etc., dans ma tête. Je pense en langue. En langue, mot, lettre. C'est-à-dire ? Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais vous transmettre ma pensée, c'est-à-dire la chose qui est à l'intérieur de mon cerveau, qui est totalement abstrait, qui est formé de mots, qui est formé de lettres, je vais pouvoir les articuler avec ma bouche et dans l'air, je vais arriver au micro qui va arriver sur Internet, qui va vous sortir de votre haut-parleur et vous entendez les lettres que j'ai dit, les mots que j'ai dit, les phrases que j'ai dit et vous allez pouvoir rencontrer ma pensée. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord ?
Oui.
Bien fait. Maintenant, vous faites la même chose avec un texte. Vous prenez un texte d'un écrivain quelconque. Vous allez lire ce qu'il dit. Donc, vous allez, en lisant ce qu'il dit, vous allez être capable de vous rattacher à la pensée qu'il dit. D'accord ? À la pensée qu'il dit. Si je vais lire Shakespeare, je vais me rattacher à la pensée de Shakespeare. Si je vais lire Newton, je vais me rattacher à la pensée de Newton. Une lettre en hébreu, ça se dit « ot ». « Ot », ça veut dire « lettre ». « Otiot », des lettres. Israël, on dit, c'est les anacrostiches de « Yeshishim ribo otiot la Torah ». Il y a 600 000 otiot lettres, l'amed la Torah dans la Torah. C'est-à-dire, environ, il y a plus que 600 000, mais environ 600 000. D'accord. Otiot, c'est des lettres. Mais c'est aussi le mot « ot », retenez-le, parce qu'on aura l'occasion de l'apprendre. C'est le shoresh de « ot », c'est « aleph tav », de Aleph à Tav. Mm-hmm. Et en fait, ça veut dire venir. Venir. En araméen, on le voit souvent, mais même en hivrite, on le voit une fois dans la Torah, dans le Chumash, dans la paracha de Vezot HaBeracha, où il est dit « Ata mirivot kodesh ». Ata, il est venu des myriades de sainteté. Des myriades de sainteté. Ata mirivot. Comme Ata tu, c'est pas tu, c'est pas toi, c'est venir. C'est-à-dire que grâce aux lettres, on fait venir la pensée. Maintenant, chidouche. Peut-être pas pour tout le monde, mais quelque chose d'important de comprendre. Quand on étudie la Torah, on est obligé de lire les lettres et de prononcer les mots. La Torah, ça ne se lit pas comme ça. Je prends une feuille de Torah ou un livre. juste avec la tête. C'est-à-dire mieux que ça. Quand tu fais une bracha, Shakol Niyavid Varo, après tu prends ta boucha. C'est-à-dire, tu bois la boucha, tu as fait Shakol Niyavid Varo, tu prends ton verre de boucha. Il y a fait. Maintenant, quand tu fais Boré Pera Geffen, tout de suite, tu dois boire le vin. Quand tu fais Boré Minimizo, tout de suite, tu dois manger le gâteau. Vous êtes avec moi? Il y a fait. Est-ce que je peux étudier la Torah sans avoir fait une bracha préalablement? Alors, il est clair que non. Le matin, on est obligé de faire les birkot à Torah. Une des brachot de la Torah qu'on récite, c'est Brachat Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ami, etc. Brachat Hashem, Noten HaTorah. Et juste après, dans le Sidour, qu'est-ce qu'on voit? On récite Birkat Kohanim. Deber El Aaron, Bel Banav les morts, Kote Brachot et Ben Israël, Amor Lahem. On récite Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, on a fait une bracha et on doit faire la Torah. Mais dans ce que tu récites, tu es obligé de le dire à voix haute. Parce que juste penser ou regarder les lettres de la Torah, ce n'est pas l'imout Torah, ce n'est pas l'étude de la Torah. D'où nous savons ça? Parce qu'il y a un verset explicite qui nous dit de quelle manière nous devons étudier la Torah. C'est dans le premier paragraphe du schéma où il est marqué « Védibarta bam », tu parleras dans elle. Et il y a un remès très grand. En elle, c'est marqué « bam », bam, 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 bête même, en elle. Mais c'est un remède, c'est une allusion. Bête, c'est l'allusion à la Torah écrite. En effet, la Torah écrite, elle commence par bête, bereshit. Même, c'est une allusion à la Torah orale. La première Mishnah de la Torah orale, qui est Maseret Brachot, ça commence par même atay, korim et shema barabim. Même, mais, à partir de quand? Même. Védibartabam, tu parleras dans les paroles de la Torah écrite, mais même dans les paroles de la Torah orale. C'est-à-dire qu'il faut parler. L'étude de la Torah ne peut se réaliser seulement s'il y a une parole. Seulement s'il y a une parole. Je vous rappelle, dans notre tradition, on avait l'interdiction d'écrire la Torah. La Torah orale, je parle. Torah écrite, il fallait l'écrire. Mais la Torah orale, toute la Mishnah, tout le Talmud, c'est-à-dire les 75 000 livres que nous avons écrits, qui sont de Torah orale, 75 000 livres, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est... Ils ont sorti un disque dur où il y a près de 50 000 livres juifs de Torah. Donc, il doit en avoir plus, 75 000 livres. Tous ces livres, c'est de la Torah orale. On n'avait pas le droit de les écrire. On les a écrits parce qu'on avait peur de perdre l'enseignement de la Torah. Et la sot l'Hashem et firo Torah Techa. On a une autorisation très particulière. Rabbi Yehuda HaNassi, quand on va écrire la Mishnah, c'est une autorisation pour sauver la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est une parole, c'est un dibour. C'est-à-dire que la Torah, on parle, on dit les lettres du Kodesh. Maintenant, vous suivez, les lettres du Kodesh, Otiyot HaKodesh, pour dévoiler et pour recevoir la sagesse du Kodesh, la sagesse de la sainteté. Et là, on l'a. Si tu parles avec moi, où tu répètes les paroles que je dis. Tu peux avoir les paroles humaines que j'ai, les pensées humaines, et recevoir les pensées humaines que j'ai dit en entendant ce que je dis, en lisant ce que je dis, en répétant ce que je dis. Mais lorsqu'on va lire la Torah, en récitant les lettres de la Torah, en récitant les mots de la Torah, on se rattache à la matière qui est capable de nous faire transmettre la sagesse de sainteté, Chochmat HaKodesh. Donc vous comprenez déjà qu'on ne peut étudier la Torah qu'en hébreu. L'araméen, c'est une autre question, parce que vous en avez qui vont tout de suite dire, mais la Gemara, elle est en araméen, le Zohar, elle est en araméen. C'est une autre question, mais le klal, il est comme ça. Les otiyot à Kodesh, les lettres de sainteté, c'est-à-dire le Lachon à Kodesh, ça permet à Chochmat à Kodesh de venir. On a dit lettre, c'est venir. Ot, ata, venir. Ça permet à la sagesse de venir. C'est-à-dire, que même si le prophète, comme Yirmiya par exemple, il va avoir une image, parce que la prophétie commence par une image, il va avoir une image de la prophétie. Il va voir un amandier qui est en train de fleurir. Dans Yirmiya, premier chapitre, dans le prophète Jérémie. Même si c'est en premier une apparition d'une image, Akadosh Baruch Hu va lui dire, Dieu va lui dire à Yirmiya, Ma'ataroé, qu'est-ce que tu vois? Il va dire et shaked aniroé. Ma quel shaked aniroé? Un bois d'amandier, un bois hâtif, je vois. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit et tav taliro, tu as bien fait de voir. C'est-à-dire que le prophète doit exprimer par des mots, par des lettres, la sagesse divine qu'il a reçue. Et Moshe Rabbeinu, c'est tout ça. Moshe Rabbeinu a exprimé par des mots, par des lettres, la sagesse divine. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Donc, la Torah, c'est parler. La Torah, c'est le but de l'étude de la Torah, c'est se rattacher à l'esprit prophétique. S'entraîner à l'esprit prophétique de Rashi, s'entraîner à l'esprit prophétique de Tosfot, s'entraîner à l'esprit prophétique de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, en lisant la Torah. S'entraîner à l'esprit prophétique du roi David à travers les psaumes. On ne fait que répéter des paroles prophétiques. Ken Felicia, question.
Question. Vous avez donné un chiffre absolument incroyable de gens dans le monde qui sont dans la chrétienté, dans la laïcité, dans l'islam. Comment ça se fait? Ils ont su faire leur publicité. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est, leur publicité, par la force ou par... je ne sais même plus comment...
L'horreur, par l'horreur.
Pat Moar, ou par je ne sais plus quoi. Que tant de gens sont arrivés à s'y attacher à ces choses-là. Et Nahon, que nous n'avons pas fait la publicité de notre Torah. Et en même temps, nous devons être hors le Olam, hors le Goyim. Ça mérite qu'il y a quelque chose que fils fasse, nous.
Nahon. Alors, le Rambam, il va dire, on l'a déjà lu dans ce cadre d'études, le Rambam va dire le Israël était très faible au niveau spirituel après la destruction du second temple. Là où il va voir le début de la chrétienté. Et l'idée d'un Dieu unique, du fameux monothéisme, c'est plus compliqué dans l'homme Israël, mais déjà le monothéisme, sortir le monde de l'idolâtrie, c'est fait par l'intermédiaire de la chrétienté ou est par l'intermédiaire de l'islam dans des voies d'impureté, mais le monde a avancé vers sortir de l'idolâtrie pour arriver vers le monothéisme. Okay, mais en effet, c'était le devoir d'Israël de faire ça. Et c'est pour ça qu'est-ce qui est triste à voir. D'abord, c'est dans l'impureté, pas besoin de donner des détails, c'est clair que c'est dans l'impureté, surtout dans la chrétienté qui est de la Vodazara, qui est l'idolâtrie. Mais ils ont réussi à sortir du monde des idoles, à apprendre l'esprit. Une chose très importante, qu'on attend le Mashiach, pour les goïms, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Même sans rentrer, oui, mais ils ont dit que c'est un Dieu homme alors que c'est impossible. Ok, mais il y a deux idées énormes. Il y a un seul Dieu, un seul créateur de ce monde et il va avoir le Mashiach.
Oui, mais il
grâce à la chrétienté, dans la plus grande des horreurs, le monde a avancé. Maintenant, comment ça se fait que le monde a accepté ça? Parce qu'au fond d'eux, ils sentent ça. Ils sentent deux choses primordiales. Le divin ne s'est pas, n'est plus là depuis la destruction du temple. Et deux, on attend son retour. Mais non, tout le reste qu'on explique dans nos cours pour ne pas nous comprendre le mensonge de ce que dit la chrétienté, c'est comment, pourquoi, etc. Mais ces deux idées, on pourrait les appliquer au Am Israël. Je traduis par la Shekhina. La présence divine a disparu. Pendant 2000 ans, en étant dans Galout, où elle était la Shrina? Où était la Shrina? Ben, la boucherie. À la boucherie cachère, elle était la Shrina. Elle était, moi j'habitais Aix-en-Provence, elle était rue de Jérusalem. Vous savez? Il y avait une rue de Jérusalem, c'était là où il y avait la synagogue. C'était là-bas où elle était, la Shrina. Mm-hmm. Maintenant, les Goïm, quand c'est Aix-en-Provence, rue de Jérusalem, d'où ils te disent, mais on ne la voit pas, la Shrina? Parce qu'eux, ils attendent à Yerushalayim, la vraie Jérusalem. Donc, les Goïm expriment ce manque énorme de divin. Ils vont s'attacher à un souvenir. Parce que ni dans l'islam, ni dans la chrétienté, on parle des progrès de rencontrer le divin. Nous, regardez tous les cours que vous avez. C'est de nouveau, on construit Israël, de nouveau, le retour des exilés, Dieu se dévoile, etc. Eux, pour eux, c'est triste. Dieu est mort.
Mais oui, c'est ça. Comment
leur dernier prophète est mort. Alors, peut-être pas pour l'islam, mais leur dernier prophète est mort. C'est-à-dire que le mieux, la meilleure des choses pour te rattacher au prophète, c'est que tu t'habilles comme lui et tu assassines comme lui. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu veux être le proche comme nous. C'est-à-dire, tu veux être proche de Moshe Rabbeinu. Oui, on sait comment être proche de Moshe Rabbeinu. Faire le bien, faire les mitzvot, étudier la Torah, aider le Ham Israël, être serviteur du peuple d'Israël, être serviteur du peuple du Ham Kadosh. Tu sais quoi faire pour devenir proche de Moshe Rabbeinu? Non. Dans l'islam, tu veux être comme Mohamed, faire les guerres de Mohamed, utiliser la même arme que Mohamed. Être habillé de la même façon que Mohamed. C'est-à-dire, tu reviens en l'an 622. Extraordinaire comme progrès. Et là, pour eux, le malaise qu'ils ont justement, c'est que l'histoire est finie. L'histoire est finie. On attend quelque chose qui va, quelque chose de surnaturel. Alors que chez nous, pas du tout. Mais c'est pour ça que ça s'est développé, c'est pour ça que ça s'est avancé.
Excusez-moi.
Oui. Il reste 5 minutes. Mais ça va.
Je voulais dire que ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est cet attachement du souvenir. Donc, de la nostalgie de quelque chose qui a été, mais qu'il croit avoir perdu, qui empêche qu'il soit dans une évolution et qu'ils sont plutôt dans une régression. Alors que le judaïsme est dans un mouvement d'évolution constante. Et non, que par justement les prophètes, c'est-à-dire les prophéties qui arrivent et qui sont comme des degrés qui emmènent vers une évolution permanente. C'est là le dynamisme, je trouve, extraordinaire du judaïsme. Moi, je suis née chrétienne. Je n'ai pas supporté, justement, quand j'allais au catéchisme, dès l'enfant, j'ai dit non au catéchisme. Je ne supportais pas parce que je trouvais ça pas juste et pas en ordre. Je ne me l'expliquais pas pourquoi, hein, c'était comme une enfant. Mais après, évidemment, je me suis dit, mais ça ne va pas, ça ne me convient pas. J'ai été dans le refus complet du catholicisme, tout particulièrement, et je suis allée vers le bouddhisme pour aller vers le judaïsme. Le jour où je suis arrivée en Israël, je suis allée au Kotel et j'ai eu des messages, des révélations. Et c'est là que ça a démarré. Voilà. Donc, c'est juste un témoignage. Mais pour vous dire que ce que vous dites, lisez ça me touche profondément.
Lisez le livre d'Avraham Livni. Je pense que ça vous aidera énormément. Ça aidera tout le monde. Moi, ça m'a énormément aidé. Mais merci. En particulier des personnes qui connaissent ça de l'intérieur, maman, c'est.
On a récupéré une cinquantaine d'exemplaires là, c'est en cours.
C'est important, David, c'est très très important.
Oui, et c'est disponible à la FNAC, il livre à la maison.
Merci, Félicia.
C'est-à-dire, regardez, on a fini pour aujourd'hui, on a fini le chrétien. Et juste, je vous dis juste la fin du Kuzari pour que la semaine prochaine on commence l'islam. Le Haver, le roi des Khazars, le Meler Akuzari, va dire la chose suivante. Il va dire aux chrétiens, ce que tu me dis, c'est une chose qui va à l'encontre de la logique. Qu'une femme vierge va donner naissance à Dieu, que Dieu lui-même va devenir homme, c'est une chose qui est au-delà du rationnel. On appelle ça le paradoxe chrétien. C'est d'un côté, on parle de Dieu, mais qui est homme. On parle de l'infini qui est fini. On parle du créateur qui est créature. C'est-à-dire, c'est quelque chose de totalement illogique. Il y a deux choses qu'on rencontre un phénomène illogique. Soit nous sommes quand même capables de l'expliquer, alors ça devient plus illogique, soit nous l'avons vécu. Or, le chrétien, le roi des Khazars dit, c'est inexplicable au niveau de la logique. Deux, je n'ai pas vécu ça. Ce que tu racontes, je ne l'ai pas vécu. Et je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous que moi, David Partout, je rencontre des Martiens. Lors de ma rencontre des Martiens, alors c'est un truc irrationnel, mais je l'ai vécu. Et donc, je vais essayer d'expliquer rationnellement ce que j'ai vécu comme irrationnel. Mais une personne qui va m'entendre parler des Martiens, il ne peut pas accepter une chose comme ça et dire, moi, ce que ça te concerne que toi. Pourquoi? Parce que c'est une chose, pour moi, irrationnelle que je n'ai pas vécue. Maintenant, regardez bien. Il est très étrange, très, très étrange, et je vous laisserai réfléchir pour la semaine prochaine, que l'Europe, qui a mis en avant l'intellect, les connaissances, les sciences, etc., ont adopté d'Afka la religion la moins rationnelle ou la plus irrationnelle. Et c'est très fort de la part du Kuzari de ramener ça comme réponse, parce que cela veut dire que la Emouna est rationnelle. Et chez la chrétienté, la Emouna n'est pas rationnelle. Or que nous, on parle de Chochma, de sagesse, de la Da'at et Hachem, de connaître le divin. C'est-à-dire que oui, il y a une sagesse et qu'il faut l'étudier. C'est-à-dire que dans la Torah, on va mettre le côté de l'étude avant l'expérience qu'ils appellent l'expérience religieuse. Non, on va étudier, on va apprendre. Le Talmid, Moshe Rabbeinu, c'était un érudit en Torah. Tous nos grands, c'est des érudits en Torah. Et c'est moins le côté qu'ils ont vécu des expériences. C'est-à-dire Shavua Tov, Bezrat Hashem. La semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. La semaine prochaine pour s'attaquer aux Arabes.